VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Niamey, bienvenue à notre journal. Au Niger, la minorité chrétienne a célébré vendredi la fête de Noël sous haute surveillance, en particulier à Niamey. Et ce, près d'un an après les émeutes anti-chrétiennes de janvier 2015, qui avaient fait 10 morts et causé la destruction de la plupart des églises de la capitale de ce pays, principalement musulman. Au Vatican, le pape a lancé un appel à la sobriété lors de la traditionnelle messe de minuit. Des détails avec Anne Albertson.
Dieu nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l'essentiel, a affirmé le Saint-Père dans une basilique comble à l'occasion de cette fête qui est avec Pâques l'une des deux célébrations centrales du christianisme. Le pape François a poursuivi, dénonçant une culture de l'indifférence qui finit par être impitoyable et jugé que doivent cesser toute peur et toute frayeur pour les chrétiens, en raison de la lumière que constitue la naissance de Jésus.
En Guinée, le président Alpha Condé a gracié 171 personnes, dont 4 condamnées à de lourdes peines de prison pour atteinte à la sûreté de l'État après l'attaque contre son domicile privé en juillet 2011. C'est ce qui ressort d'un décret lu jeudi soir à la télévision nationale. 167 des bénéficiaires sont des détenus de droit commun. Parmi les 4 autres qui avaient été condamnés par une cour d'assises pour atteinte à la sûreté de l'État figure Amadou Ouriba, vice-président de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Le parti de l'ex-premier ministre Sélou Daline Diallo, principal opposant du président Condé. Monsieur Ba, accusé d'être impliqué dans l'attaque du domicile privé d'Alpha Condé, avait été jugé par contumace et condamné à perpétuité et à la confiscation de ses biens. Il vit en exil en France depuis 2011. Autre grâce à l'occasion de Noël, en Côte d'Ivoire, Sébastien Dano Diédian, un ancien ministre proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a bénéficié jeudi d'une mesure de liberté provisoire après 7 mois de détention pour avoir affiché son soutien à l'ex-président ivoirien poursuivi par la Cour pénale internationale. Sébastien Dano Diédian, poursuivi entre autres pour rébellion et voie de fait sur les forces de l'ordre, avait été interpellé en mai 2015 en même temps que l'ex-ministre Hubert Houlahi et Justin Koua, un autre cadre du parti de l'ex-président. Au Nigeria, la forte explosion et l'incendie d'hier dans un complexe gazier de Neuvruy dans le sud-est du pays a fait des dizaines de morts. C'est ce qu'a déclaré le président Muhammadu Buhari dans un communiqué aujourd'hui. L'explosion s'est produite vers midi jeudi dans un site de production de gaz liquide. Un incendie s'y est déclaré et s'est propagé aux bâtiments voisins, faisant de nombreuses victimes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, les autorités minimisent l'importance de la nouvelle rébellion anti-gouvernementale annoncée cette semaine. Le point avec Timothée Donangmaï.
Ce n'est pas le premier mouvement rebelle qui naît au Burundi. Il y en a eu d'autres avant lui qui ont tous été étouffés dans l'œuf, a déclaré à l'AFP Willy Nyamitwe, responsable de la communication présidentielle. Le mouvement existait déjà et avait mené de nombreuses attaques, dont celle du 11 décembre contre des camps militaires, a ajouté Willy Nyamitwe. Selon un bilan officiel, ces attaques ont fait 87 morts, alors que l'ONU parle de quelques 200 civils tués. En annonçant mercredi la mise sur pied du Forebu, le lieutenant-colonel Edouard Chimirimana, ancien officier supérieur de l'armée, a expliqué que la volonté de ce regroupement des principaux groupes armés du Burundi est de chasser par la force Nkurunziza du pouvoir pour restaurer l'accord d'Arusha et la démocratie. Ce développement intervient à quelques jours de négociations sur la crise burundaise qui doivent débuter lundi à Kampala.
La République centrafricaine a été au cœur de l'actualité cette année 2015 en Afrique. Notre correspondant Bangui Freeman Sipila revient sur les faits les plus saillants des mois écoulés dans cette rétrospective de l'année qui s'achève.
2015 aura été l'année la plus décisive dans l'histoire de la République centrafricaine depuis le déclenchement de la crise en décembre 2012, ouvrant la voie à des violences intercommunautaires. Plusieurs événements ont marqué le pays sur le plan politique, sécuritaire, économique ou socioculturel. Arsène Mousseavo est journaliste centrafricain. Il se rappelle encore de quelques événements.
Oui, l'année 2015 en Centrafrique a été une année très bouleversée par des crises On peut citer quelques principales villes qui ont été beaucoup plus touchées pendant cette année 2015 qui s'achève. La ville de Kagabandoro, qui est au centre du pays, la ville de Bambari, qui a été la ville la plus touchée, la ville qui a subi beaucoup de dégâts, tant sur le plan humain que matériel, parce que cette ville a été divisée, une partie qui était sous le contrôle des éléments du général Ali Darassa, et une partie qui était donc sous contrôle des anti-Balaka. Et à Bangui, c'était vraiment une capitale qui, durant cette année 2015 s'achève, a connu trois ou quatre principaux événements qui a occasionné beaucoup plus de déplacés internes dans une partie, disons, du 3e arrondissement de Bangui, précisément le quartier appelé le PK5. Il y a eu des événements qui se sont produits deux ou trois fois dans cette localité. Une église qui a failli être brûlée. Et les derniers événements du 26 septembre et du 29 ont ébranlé toute une population de part et d'autre, que ce soit du côté des chrétiens ou bien des non-chrétiens. Plusieurs maisons ont été brûlées. Plusieurs maisons ont été brûlées, je le répète. Et c'est ce qui a vraiment été la crise la plus, disons, désastreuse dans cette partie de la capitale centrafricaine. Voilà brièvement présenter un peu la situation, mais je pense qu'avec la visite du pape qui avait eu lieu le 29 et 30 novembre de cette année qui s'achève, il y a eu une lieu d'espoir. On a vu que dans le 3e arrondissement de Bangui, où il y a cette enclave des musulmans, eux-mêmes ils ont pris la décision de pouvoir chasser de ce secteur-là ceux qui sont considérés comme des extrémistes qui sont dans le secteur, qui sèment des troubles.
Autre fait marquant, le Forum national de Bangui tenu du 4 au 11 mai, la visite fin novembre du pape François à Bangui, Kevin Yabada, ancien président de l'Association nationale des étudiants centrafricains, ANECA.
Ce qui a marqué un peu, c'est le forum. Le forum était passé dans de bonnes conditions et en dehors de ces crises qu'on a connues, qu'on ne peut pas aussi expliquer, on a vu ce qui a vraiment amené encore beaucoup plus la sérénité, c'est l'arrivée de pape. Cette arrivée tant attendue a été reçue. Pape est venu jusqu'à encore, ce qui est très remarquable, aller au kilomètre 5, ce qui est considéré comme un couloir de mort. Donc vraiment, le forum de Bangui, l'arrivée de pape, en tout cas, c'est des événements très remarquables pour moi pour l'année 2015.
L'insécurité a aussi laissé des traces indélébiles sur l'économie, fortement touchée par les grèves à répétition des transporteurs de l'axe Bangui-Douala, dénonçant les multiples attaques d'hommes armés sur leurs convois et la passivité des forces de l'ONU, la MINUSCA, censée sécuriser le tronçon. C'est ce que remarque Marcel Moula, fonctionnaire de l'État.
Il y a d'abord eu cette prorogation de la transition qui s'éternisait. Il y a eu beaucoup d'événements sur la scène politique et sur la scène sociale. L'économie tend à se relever, mais n'est pas arrivée au top de ses capacités. Si à la paix, les gens vont vaquer à leurs occupations, les filières financières vont se mettre au travail, et là, ça va renflouer les caisses de l'État qui pourraient éventuellement, avec l'appui de la communauté internationale, se remettre au travail pour mettre le pays sur le chemin de développement.
En 2015, sur le plan religieux, quel est l'événement qui vous a le plus marqué?
Je crois que vraiment l'implication de l'archevêque de Bangui a été très déterminante pour la pacification du pays. Il est sur tous les fronts. Avec la Caritas, il essaie de compenser vraiment la misère des gens et il n'hésite pas à prendre son bâton de pèlerin pour se porter au-devant malgré les risques qu'il encourt.
Sur le plan sportif, on notera l'exploit des Fauves de Bazoubangui de football avec leur victoire 2-0 à Bangui devant les Léopards de la République démocratique du Congo le 8 octobre après au moins 2 années d'absence de rencontres à domicile. Quelques mois plus tard, le gouvernement annonce une décision historique de ne plus financer les sorties sportives dans le pays jusqu'à nouvel ordre, faute de résultats positifs. Le référendum du 13 décembre émaillé de violence, la proclamation le 14 décembre d'une république dénommée République de Dar El Kouti au nord-est du pays par le chef rebelle du FPRC Nour Adin Adam, les élections groupées du 27 décembre repoussées au 30 du même mois constitue un tournant décisif dans la transition instaurée depuis le renversement en mars 2013 de François Bozizé par la coalition des rebelles de la Silica. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et pour terminer, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a décrété jeudi 8 jours de deuil national après le décès la veille de Hosni Aït Ahmed, un des pères de l'indépendance devenu opposant historique au régime algérien à la tête de son parti du Front des Forces Socialistes. Il était le dernier survivant des 9 fils de la Toussaint, les chefs qui ont déclenché la guerre d'Algérie en 1954.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.